France Inter, le 7-9, Nicolas Demorand.
Et l'invité du grand entretien de la matinale de France Inter est un ancien député européen écologiste, Léa Salamé, dans une dizaine de minutes pour intervenir. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application. Non, c'est de la joie et du bonheur. Et l'application France Inter. Daniel Cohn-Bendit, bonjour.
Bonjour, monsieur Demorand.
Angela Merkel doit être élue chancelière aujourd'hui. Prestation de serment, puis premier conseil des ministres d'un gouvernement de coalition entre la CDU et le SPD. 6 mois de tractation pour arriver à ce résultat qui n'a pas l'air d'enthousiasmer grand monde en Allemagne. On est, Daniel Cohn-Bendit, d'après vous, face à une crise politique profonde en Allemagne ou tout simplement face à l'usure du pouvoir d'Angela Merkel ?
J'ai le droit de dire ni l'un ni l'autre.
Ah ben, avec grand plaisir.
Ni l'un ni l'autre, non. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne a découvert un nouveau paysage politique avec l'irruption de l'extrême droite au Parlement qui a changé les données. C'est très difficile de faire une coalition, d'autant plus que les sociodémocrates qui avaient perdu ont dit logiquement, nous on va à l'opposition, on a perdu. Donc, c'est aujourd'hui une redistribution des cartes, un nouveau paysage politique, et c'est la constitution allemande qui est à l'épreuve, qui a été à l'épreuve pendant 6 mois.
Donc c'est pas une crise ?
Non, c'est pas une crise. Ils ont un gouvernement maintenant, un gouvernement qui sera stable, un gouvernement qui, parce qu'on n'en attend rien, a toutes les chances de réussir des choses.
Ça, c'est votre optimisme.
Mais non, mais c'est évident. Vous allez voir, ils vont s'attaquer aux problèmes, par exemple, de la médecine, aux problèmes des pauvres. Moi, je crois que c'est un gouvernement qui sera pas formidable, mais qui fera quelques réformes nécessaires. Et surtout, un gouvernement qui va s'orienter vers l'Europe. C'est le premier chapitre de la coalition. Et vous allez voir, ce que vous allez voir, c'est que maintenant, Macron aura enfin quelqu'un qui répondra
aux questions.
Ça y est,
le franco-allemand.
Mais c'est ça. Regardez.
Crise en Europe, franco-allemand. Crise en France, franco-allemand. Crise en Allemagne, franco-allemand.
Mais parce que à la radio,
c'est la réponse toujours. Non. Franco-allemand.
Mais c'est pas ça. C'est la situation. Elle est simple. Si aujourd'hui, vous avez une Europe désorientée, vous avez quelqu'un qui fait des propositions, on les trouve bonnes ou mauvaises, c'est autre chose. Mais quelqu'un, et vous avez un gouvernement allemand qui met dans un accord de coalition, parce que ça n'existe pas en France. Enfin, quand un gouvernement en Allemagne, on fait un accord de coalition, on écrit ce qu'on va faire. Donc après, vous pouvez dire, mais alors, vous avez fait, vous n'avez pas fait. Et dans cet accord, le premier chapitre, c'est « Réorientons l'Europe ». Et donc, je crois que ce gouvernement a des chances de faire de petites choses, mais qui peuvent être importantes.
Et donc, le couple franco-allemand aura la main en Europe pour la réformer et éloigner les vents mauvais du populisme, Daniel Cohn-Bendit.
Non, le couple franco-allemand n'aura pas la main en Europe parce que personne n'a la main en Europe. Mais le couple franco-allemand peut faire des propositions.
Par exemple.
Pour faire. Comment ?
Par exemple.
Il peut faire des propositions sur la sécurité. Là, j'ai entendu un commentaire, là, ça va mal entre l'Occident, ce qu'on appelait l'Occident, et la Russie. On a des véritables problèmes aujourd'hui. Vous avez les États-Unis, avec aujourd'hui des droits de douane partout, vous avez les Chinois, vous avez les Russes, et donc, il y a une reprise de conscience, et là, le couple franco-allemand peut faire des propositions. Le couple franco-allemand va faire des propositions sur l'investissement nécessaire en Europe pour les pays qui, en ce moment, ont toujours des problèmes économiques. Donc, ça peut, on verra. Mais pour qu'il y ait cette situation, il faut d'abord qu'il y ait un gouvernement à Berlin qui réponde à ce que propose le gouvernement à Paris. Et ces deux gouvernements devront, s'ils sont intelligents, je l'espère, j'en suis pas sûr, faire des propositions après aux 26 partenaires de l'Union européenne.
Donc, comme d'habitude, on prend les mêmes et on recommence, Daniel Cohn-Bendit.
On prend les mêmes. On n'a pas dit on prend les mêmes et on recommence. Mais c'était idiot.
Pas nécessairement.
Moi, je trouvais que c'était idiot. Donc, la critique est libre.
Non, c'est pas une facilité. Le couple franco-allemand va proposer des propositions. Il y en a 1000 et il y en a toujours eu des millions sur la table.
C'est ça la politique.
Mais c'est ça la politique.
Vous savez,
est-ce que c'est ça ce qui empêchera le populisme de prospérer en Europe? Des propositions.
Mais écoutez, vous savez, on m'a pas encore proposé d'avoir le prix de la paix ou tout ça, parce que j'ai pas de boule de cristal. Et que qu'est-ce qu'on fait contre le populisme? On verra. Le populisme aujourd'hui, c'est une réaction d'une partie des populations face à une désorientation créée par la mondialisation. Donc si vous voulez résoudre ce problème, vous devez vous attaquer à la régulation de la mondialisation. Donc est-ce que aujourd'hui l'Europe va être en capacité de proposer, de s'attaquer à cette dérégulation de la mondialisation qui crée des problèmes? C'est ce que je souhaite. C'est ce qui est nécessaire. Est-ce que ça va se faire? Nous allons le voir. Mais il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de, tiens, voilà, j'ai la solution. Le populisme, je lui tape sur les doigts, hein, et vous allez voir qu'ils vont rentrer à la maison. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vous allez voir, par exemple.
Mais
vous
est-ce que les 27 Italie, veulent quelque chose en commun? Est-ce que tous les pays membres de l'Union veulent la même chose?
Mais vous savez, les pays, même à l'intérieur, est-ce que tous les Français veulent la même chose? Non. Est-ce que tous les Allemands veulent la même chose? Non. Est-ce que tous les Italiens veulent la même chose? Non. C'est-à-dire que vous avez des gouvernements qui font, essayent de faire émerger des solutions, des propositions, c'est des bons ou des mauvais gouvernements, et donc qui sont aussi en contradiction dans leur pays. Donc aujourd'hui, tous les Européens ne veulent pas la même chose, mais ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que les populistes arrivent aux portes du pouvoir ou au pouvoir, il y a une chose qu'ils font, toutes des propositions qu'ils avaient pendant des années, ils les retirent. 5 étoiles en Italie, référendum sur l'euro, ah non, on n'a jamais dit ça, vous ne m'avez pas compris. La Lega, on va sortir de l'Europe, mais non, vous ne m'avez pas compris, ce n'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire un gouvernement, et ils savent que si l'Italie, aujourd'hui, sort de l'Union européenne, c'est la cata totale. C'est la cata financière, c'est la cata économique, etc. Donc, et pourquoi Marine Le Pen a pris, a perdu, pour être poli, aux élections présidentielles? C'est parce que toutes ces propositions pour sortir de l'Europe, les Français sont très sceptiques sur l'Europe, tout, mais il y a une chose qu'ils ne veulent pas, c'est de sortir de l'Europe. Donc, les gens ne veulent pas la même chose, mais ils veulent tous... ils veulent tous ne pas sortir. Mmh. Et les seuls qui sortent maintenant, c'est les Britanniques. Et ça, c'est une histoire. Et ça va très mal. Ça va très mal. Les Britanniques sont pas vraiment... C'est pas... Tous les matins, ils se lèvent pas et disent « Hurrah, we are getting out of Europe !» Tu parles. Ils les ont à zéro maintenant. Mmh. Donc, vous voyez, il faut être plus calme. Ça veut pas dire que ça va réussir. J'en sais rien. Mais je crois que avec... un gouvernement en Allemagne aujourd'hui, cette coalition, et avec une prise de conscience, l'Europe a une chance de se stabiliser et donc de régler, d'amener un règlement de la régulation de la mondialisation.
Il y avait un commentaire au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, donc à la présidentielle, qui
c'est
était
qui,
de dire, vous le connaissez bien, vous êtes intime, non, d'Emmanuel Macron?
Ah non, on n'a aucune intimité.
Oui, mais enfin, vous avez une relation politiquement dense.
Oh, dense. Avec
non, mais soyez pas modeste.
Non, mais bon, d'accord. Oui, d'accord. Allez.
On disait, c'est la France marque le point d'arrêt du populisme en Europe. Voilà, cette élection démontre que. Comment voyez-vous cette analyse a posteriori?
La France a marqué l'arrêt du populisme qui dit il n'y a qu'à sortir de l'Europe. Ça s'est arrêté avec l'élection d'Emmanuel Macron. Ça avait déjà commencé avec l'élection hollandaise. Donc, on a vu les limites de l'argument, d'un certain argument. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du populisme. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que le populisme, s'il veut se maintenir comme un projet politique, eh bien, lui aussi, il doit se réorienter.
Mmh. Qu'allez-vous faire, Daniel Cohn-Bendit, pour le 50e anniversaire de mai 68?
Je sors un livre.
Oui.
Qui s'appelle « Sous les crampons, la plage ».
Sur le football?
C'est une biographie liée au football. C'est-à-dire, c'est ma vie avec le football.
Pourquoi vous détestez les commémorations de mai 68?
Je déteste pas, j'ai fait ça pendant 49 ans.
Trop, donc.
Donc, je trouve que c'est ennuyeux, maintenant. Pendant 49 ans, j'ai fait ça un an après, 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après. Et il y a 10 ans, donc, j'ai sorti un livre, Forget 68, d'ailleurs, avec quelqu'un de France Inter. Hein, c'était un débat sur France Inter qu'on en a fait un petit livre.
Stéphane Paoli, non?
Stéphane Paoli, exactement. Et Et je dis, bon, maintenant, tout le monde a envie de parler de 68. Et oh là, moi, je veux pas empêcher Madame Polony, Monsieur Zemmour et tout ça, de faire des Figaro Magazine spéciales sur...
La décadence.
La décadence, on est tous des décadents.
C'est à cause de vous.
Hein. Je suis le responsable de toute la décadence de la France, quel honneur.
Vous êtes
je
fier,
n'oserais pas. Je n'ose... Non, je suis, pour les gauchistes, je suis le traître absolu et tout ça. Donc je dis, maintenant, prenez tous les espaces que vous, dont vous avez besoin sur 68.
50 ans après, un motif de fierté tout de même sur mes 68, Daniel
Cohn-Bendit. Oui, je suis toujours en vie.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. non, mais un motif de fierté. Écoutez, il y a une chose que je voudrais qu'on m'explique. Si j'avais voulu, ou si j'aurais voulu, je pouvais faire un tour du monde. Parce que 68 fascine le monde entier. De l'Argentine, en passant par le Brésil, le Mexique, les États-Unis, le Canada, des pays du Maghreb, à Dakar, en passant par toutes les capitales européennes, tout le monde veut faire un débat sur 68. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est pourquoi nos sociétés, au sein d'un petit monde, sont fascinées par 68. Et bien donner des réponses, et ma fierté, c'est je trouve fascinant que tout le monde soit fasciné.
Daniel Cohn-Bendit, dans le grand entretien de France Inter, 8h33. Léa Salamé.
Vous qui observez la France depuis toujours, comment vous expliquez qu'Emmanuel Macron réussisse à avancer ses réformes en mode bulldozer ? La loi travail, la SNCF, la fonction publique, la réforme de la formation professionnelle, l'assurance chômage et j'en oublie de nombreuses. Jusqu'à maintenant, ça passe quasiment comme une lettre à la poste. On verra s'il y a un mouvement dans les prochains jours et les prochaines manifestations, mais ça passe facilement. Quel est votre avis ? Les Français sont tous devenus libéraux ou sont tous devenus des Allemands ?
Non, non, c'est pas mal ça. D'abord, je crois qu'à la SNCF, il y aura des réactions assez fortes parce que c'est le bastion de la CGT. Mais en fait, je crois que la société française a compris qu'il fallait que des choses évoluent. Et là, d'attendre ces évolutions, elle accepte bon gré mal gré. Maintenant, les réformes proposées par le gouvernement. Ça ne veut pas dire que les gens soient tout à fait d'accord, on ne le sait pas, mais ils disent, voilà, il fallait tenter quelque chose. C'est un peu le sentiment que j'ai de la société française. Et le pari de Macron et de son gouvernement, c'est dans 2 ans, ils auront fait toutes les réformes, et où le pays change à évoluer et les gens le ressentent, où les retraités qui ont payé la CSG maintenant, mais ont vu que quand même avec ce qu'ils payent moins maintenant de taxes pour la d'habitation, etc.
Pour l'instant, ils voient que la CSG, parce que
ils
la taxe d'habitation, c'est en octobre.
Va venir.
Ouais.
C'est pour ça que je
donc
dis
là, pour
que à la
douille.
Fin... Ils doutent, mais on verra
non,
après.
Ils doutent, ils payent,
etc. Ils doutent, donc voilà, c'est ça. Mais on verra après. Donc je crois que c'est un pari qui, au contraire du quinquennat de Hollande, il dit, on fait tout au début, comme ça, on pourra dire, voilà le résultat, c'est grâce à ce qu'on a fait.
La politique migratoire d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb explique qu'elle est équilibrée entre fermeté et humanité. Vous, vous la trouvez équilibrée ou un peu, elle penche un peu plus d'un côté que d'un autre ?
Elle penche du côté de la dureté, ça ne me plaît pas. Moi, je dis toujours, je discute sur la politique migratoire si on signe ma première phrase. C'est insoluble. C'est un drame. C'est un drame d'une extrême complicité. Et donc, il n'y a pas de yaka. On peut être plus ou moins humanitaire. Et je trouve que la politique aujourd'hui telle qu'elle s'exprime, elle est moins humanitaire qu'elle pourrait l'être.
Vous le dites donc, à Emmanuel Macron, ça ?
Ah bah, à chaque fois qu'on se voit et qu'on se parle, on se dit, on le discute.
Il vous dit merci, mais non.
Mais il s'explique, c'est pas parce que je lui dis quelque chose qu'il dit « Oh Dany, mais au moment que t'es là, je vais changer ma politique migratoire. »
Vous êtes
j'attendais
intime, hein,
quelqu'un.
Quand même.
Bah oui, mais il y a des tas de gens qui sont intimes, mais ils changent pas de position. Et il est pas, je lui dis, ils ont réfléchi, non mais il faut arrêter.
Donc vous n'arrivez pas à le convaincre sur ce sujet-là ?
Ben, je n'arrive pas à le convaincre parce qu'il est convaincu lui-même qu'il faut faire la différence. Et c'est vrai qu'il améliore la politique d'asile en France, qui n'a pas été fait, l'accueil de l'asile, mais que sur les autres il fait des choses, il y a des régulations qui se font, il y a aussi, il faut pas exagérer, il faut pas être dans la caricature, mais c'est vrai que si on me mettait à la place de Colomb, je ferais quelque chose d'un peu plus humanitaire.
Vous allez faire quoi aux élections européennes, Danny Cohn-Bendit ? Cohn-Bendit sur la liste La République En Marche, c'est totalement exclu ?
Totalement.
Alors vous allez faire quoi ? Vous allez accompagner, marcher à côté d'Alain Juppé, à côté de La République En Marche ? Comment ça va être ?
Ça va être que, ça vous pouvez aller voir, je crois que le 21, je participe à un meeting d'En Marche, je vais faire des meetings d'En Marche, et d'autres d'ailleurs si on m'invite, si Yannick Jadot fait une liste...
Vous n'êtes pas marié à En Marche ?
Non, je vais parler de l'Europe. Je vais parler de l'Europe, je vais dire ce qui est nécessaire. Donc si En Marche m'invite, je vais dire ce que je crois nécessaire et que En Marche dise là, et je discute avec eux même de leur liste et tout ça. Mais moi, écoutez, j'ai 73 ans, j'aurai 74 ans l'année prochaine, et croyez qu'à 79 ans, je veux faire en tort toujours 5 fois par semaine aller à Bruxelles ou à Strasbourg. Non, moi
vous
je trouve...
Vous êtes fatigué.
Et puis, il y a une loi... Ben, je trouve que quand on a fait 20 ans de Parlement européen et qu'on dit on a fait une loi, il fait 3 mandats. Moi, j'en ai fait 4.
Ça suffit, vous dites.
Ouais, j'ai dit, ça suffit, voilà. Mais je vais prendre la place de Demorand à France Inter. Je suis trop vieux pour ça. Donc,
bienvenue.
Quel regard l'ex-68ard, libertaire, défenseur de l'horizontalité que vous êtes, pose sur le fonctionnement vertical, monarchique du pouvoir, Versailles, Chambord, les chasses présidentielles, ce fonctionnement jupitérien? Vous avez un regard amusé ou agacé?
Agacé, amusé, je dis c'est la France. Parce que c'est marrant, c'est que tous les partis politiques sont jupitériens. Mélenchon est jupitérien dans sa formation politique. C'est vraiment une structure très française. Et d'ailleurs Macron, et peut-être qu'une fois vous verrez le film qu'on a fait, il le théorise, il dit, et c'est vrai, ce qui est surprenant, c'est que la culture 5e République, elle est dans D'accord. tous les partis.
Donc on n'est pas encore devenu allemand, et le film en question, c'est le film que Romain Goupil a réalisé avec vous et qui sort en mai.
On passe au standard, 01 45 24 7000, vous avez la parole. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, alors monsieur Cohn-Bendit, en mai 1968, la première revendication était la lutte contre l'inégalité. Alors comment être à la tête de ce mouvement en 68 et pousser l'électorat à voter monsieur Macron et son ultra-libéralisme à l'heure où les inégalités n'ont jamais été aussi grandes?
Merci.
Je signale aussi à monsieur Cohn-Bendit qu'il y a aussi des mouvements horizontaux en France qui ne sont pas jupitériens, par exemple Génération S de Benoît Hamon.
Merci Daniel pour cette question. Daniel Cohn-Bendit vous répond.
C'est marrant, tu dis Génération S de Benoît Hamon et tu cites Benoît Hamon. Pourquoi tu n'as pas dit Génération S ? C'est t'as besoin de quelqu'un en haut, sinon tu n'aurais pas dit Benoît Hamon. Et donc, je veux dire que les partis politiques, et quand on se présente à l'élection présidentielle, eh bien, on fait partie de la verticalité. C'est comme ça. Je critique pas, c'est le système en France. Mais je dis, il faut. Donc, deuxièmement, la lutte contre les inégalités. Tu as raison. C'est tout à fait vrai. Mais c'est pas Emmanuel Macron qui, depuis un an, est au pouvoir et responsable des inégalités qui n'ont pas bougé pendant 40, 50 ans. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, et dans tous les pays, même quand ça va bien, regarde l'Allemagne, il y a des inégalités qui augmentent. Donc, dans tous les pays, aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution de rétrécir les inégalités. Et ce qui était marrant, c'est qu'en mai 68, il y a eu aux Accords de Grenelle un débat sur l'échelle des salaires. Et on disait, le maximum qu'on peut accepter, disaient les syndicats, c'était de 1 à 8. De 1 à 8. Et là, aujourd'hui, c'est de 1 à 70 à 100. Ou 100.
Ou, enfin, ou à 1000 ou 10 000 même.
Ouais, donc, vous voyez, c'est vrai. Et c'est un des défis, et c'est une des questions qu'on doit poser à En Marche, à Macron, c'est comment on arrive à réduire les inégalités en France.
Il manque une politique sociale à Emmanuel Macron ?
Il a, par exemple, sur la formation, il a des dimensions de politique sociale, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la balayette magique, personne n'a trouvé, pour réduire les inégalités dans aucun pays. Et c'est pas un salaire universel pour tout le monde qui réduit les inégalités.
Jean, bonjour.
Bonjour, Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour.
Face à Trump, Xi Jinping et autres Poutine, l'Europe peut-elle enfin parler d'une seule voix et dans le cadre d'une Europe fédérale à constituer. Merci.
Merci à vous, Daniel Cohn-Bendit.
L'Europe pourrait, l'Europe devrait, mais c'est tout le problème de, qu'on a aujourd'hui, c'est qu'encore aujourd'hui, nous avons, avec les 26, des visions encore différentes de la nécessité de se positionner face à la Chine, on l'a dit, les États-Unis ou la Russie. Mais la réalité oblige de plus en plus, nous allons avoir une politique de sécurité, vraisemblablement dans quelques années, plus que des embryons d'une armée européenne, mais cela ne fonctionnera que si les citoyens ont l'impression que l'Europe prend en charge leur sécurité, mais sécurité, c'est pas simplement l'armée, c'est nécessaire, c'est aussi une sécurité sociale, et là, il y a un déficit de l'Europe.
Un tweet, Thierry Morvan, Daniel Cohn-Bendit, vous pensez toujours que, il vous cite, le nucléaire est une technologie du passé et que la France devrait prendre immédiatement une décision d'abandon, point d'interrogation?
Je pense que la technologie, que le nucléaire est une technologie du passé. Je pense que le président Macron, la gauche française, en sa majorité, la droite française, fait une erreur en pointant sur l'EPR, etc. Je pense que la France devrait avoir une stratégie de sortie. Une stratégie de sortie avec la dépendance de la France du nucléaire, l'électricité en France, ça durera une 30 ou 40 ans. Les Allemands ont mis 25 ans. Ils sortent là, bientôt ça sera complètement fini. Donc oui, il faut une stratégie de sortie. Et oui, c'est un combat à mener aussi. Et que là, disons... Mais ce qui est nouveau et ce qui est plus difficile, c'est qu'on doit mener ensemble la lutte contre la dégradation climatique et contre la dépendance du nucléaire. Et que ça, c'est pas toujours évident.
Merci Daniel Cohn-Bendit.
Pas de quoi, monsieur Demorand, d'avoir quand vous voulez.
D'avoir été au micro de France Inter et bon cinquantenaire de 68.
Non mais ça nous fait vieux, c'est ça qui est terrible, c'est ça que vous comprenez pas tous. J'avais 23 ans et à chaque fois qu'on me dit cinquantenaire, vous me dites t'as 63 ans. 73. C'est ça qui est triste. Enfin non, c'est marrant, mais ça va, j'ai compris que j'ai 73 ans.
Oui, ça va, bon, c'est... Merci pour l'addition. À suivre, le Carrefour du 7-9, édito-média, histoire politique, revue de presse...
Et humour avec Nicole Ferroni.